Actu SF, les podcasts.
En attendant, je vais introduire mes deux autres compagnons de table. Donc, Sylvain Neuvel, vous êtes auteur d'un cycle, donc Les Dossiers Thémis.
Oui.
Dont les trois tomes sont sortis au livre de poche. Le troisième est sorti ce mois-ci.
Oui, il est sorti début octobre.
Début octobre. Donc, je rappelle les titres, Le Sommeil des Géants, Le Réveil des Dieux et Trop Humain. Donc, le titre du premier va pouvoir nous faire parler des géants.
Absolument.
Donc, Monsieur Moutou, vous êtes vétérinaire, épidémiologiste, c'est dur à dire, et zoologiste.
Et enrhumé.
Oui, mais comme la moitié des gens sur le salon. Donc là, nous allons pouvoir parler avec vous justement du mythe du géant et de l'animal. On en parlait tout à l'heure, d'où peut venir le mythe du cyclope, par exemple. Et Steven Erickson est ici.
Ici, là.
Là-bas.
This side. This place. Hello again.
Donc, auteur du cycle des Malazéens, qui est réédité depuis quelques mois aux éditions Léa. Donc, le deuxième tome n'est pas encore sorti, mais que vous trouverez en avant-première à la librairie. Ainsi qu'un nouveau livre chez L'Atalant qui sortira en juin, et dont, si vous avez participé à la table ronde de tout à l'heure sur la traduction, le titre en français n'est pas encore disponible. C'est encore sujet à débat. Donc voilà, donc le mythe du géant. Alors, si on regarde un petit peu, en effet, dans la littérature classique, on en retrouve des traces depuis de nombreuses années. On peut parler de la mythologie grecque avec tous les titans et autres créatures cyclopes. On en trouve aussi dans la littérature judaïque, puisque Goliath est un mythe important de la littérature judaïque. Et dans la littérature plus contemporaine, nous pourrions citer Gargantua de Rabelais ou Voltaire, Micromégas. Donc les géants ont toujours fait partie de la littérature et des mythes fondateurs. Et nous avons trois personnes ici pour en parler. Donc je vais d'abord lancer la parole à Sylvain Neuvel. Dans votre cycle, on retrouve justement dans les circonstances assez extraordinaires des créatures gigantes. Pourquoi avoir utilisé justement cette image de créatures, donc d'abord dont on ne sait pas le sexe au début du roman, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir, mais pourquoi avoir utilisé justement ce mythe-là?
Ça ne sera pas très profond comme réponse. Je pourrais, d'abord, mes géants, moi, ils sont en métal et on les trouve sous terre en morceaux pour les assembler par la suite. J'ai fait plusieurs références aux titans de la mythologie, à la Bible, pour essayer de mêler un peu d'histoire réelle à la science-fiction. Mais la véritable raison pour laquelle il y a des géants dans mes livres, c'est parce que j'ai grandi en écoutant Goldorak.
OK. On me fait signe que pour l'instant, il n'y a pas de traduction, à première vue. Le traducteur n'est pas encore présent.
Just carry on.
OK. Does he say he watching the manga Goldorak and the reason to write the giant in this book is a big UFO. I don't know in English.
Yeah, I said that they're giant robots. I'm not going to spoil it, but in my book,
c'est bon.
And I do include some mythology, but mostly it's because I watched giant robot anime as a kid.
Right. Imaginez entre terriens comment ça se passe. Imaginez avec un extraterrestre pour communiquer, ça va être compliqué. Hein?
Alors, deux petites minutes de change canal. Excusez-moi. Faites un test en anglais.
J'aime le boîtier, là. C'est peut-être une question de boîtier qui marche pas.
Trying.
Anglais, c'est Canal 2.
Désolé de ce petit contretemps. Comme dirait l'autre, c'est les joies du direct. Donc, oui, alors pour revenir sur la discussion, donc c'était donc de Goldorak. OK. Et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, justement, cette table ronde et la façon dont les géants ont toujours été dans notre mythologie?
En fait, j'ai toujours aimé mélanger la mythologie à la fiction et je suis en train de terminer un roman dont je ne peux pas parler en ce moment, mais qui va piger beaucoup dans l'histoire. Et je découvre, vous vouliez qu'on parle des cyclopes tantôt, j'aurai quelques mots à dire, mais toutes sortes de raisons intéressantes pour lesquelles on s'est retrouvé avec des mythes un peu étranges, là où il n'y avait pas de raison d'en avoir souvent.
Et Steven, pareil, dans votre univers, vous avez des créatures qui sont gigantes, qui sont d'anciennes créatures, puisque votre univers a un passif complètement construit. Est-ce que vous êtes aussi inspiré des mythes légendaires pour construire, pour imaginer ces créatures?
To some extent, I guess the closest would be the Lapiths of Greek mythology, would be the origins for that. But in terms of creating the actual cultural characteristics. No, that was pretty much invented for the novels.
Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur des mythes fondateurs. Je parlais de Goliath, qui est un mythe impressionnant, du plus faible pour le plus fort. D'où peut venir, à votre avis, dans l'humanité, cette peur du gigantisme? Celui qui veut répondre, peut-être d'un point de vue purement scientifique.
D'un point de vue biologique. Alors, je rappelle que nous sommes des mammifères. Si je prends l'exemple d'un groupe zoologique, les mammifères dont nous faisons partie, on en compte aujourd'hui un peu plus de 5000 espèces. Et si je me rappelle bien, à peu près 90% des différentes espèces de mammifères présentes sur Terre aujourd'hui, ça je prends la référence contemporaine, pèsent 1 kilo ou moins de 1 kilo. Donc déjà, nous, humains, avec des poids moyens en fonction des régions, des régimes alimentaires, de la façon dont nous dépensons notre énergie, on pèse entre 50 et 80 kilos. On est déjà grand par rapport à la moyenne des mammifères. Et donc, par rapport à nos critères à nous, ce qui est plus grand que nous nous impressionne forcément. Et quand au sein de l'espèce humaine, on a des individus qui sont encore plus grands que la moyenne d'entre nous, c'est curieux, mais c'est toujours vrai. On est toujours en train de se battre contre. On a toujours peur de quelque chose qui est différent. Alors, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est naturel, mais il y a toujours une certaine crainte par rapport à un humain qui serait plus grand que la moyenne d'entre nous. Et peut-être que... Alors, est-ce que la mythologie est la cause ou la conséquence? Ça, je ne sais pas. Mais on a un peu l'impression qu'il y a une relation entre cette moyenne et ces différences de temps en temps.
Et surtout, à première vue, c'est aussi en fonction du milieu dans lequel les créatures vivent. L'humain s'est aussi développé en fonction, il a grandi au fur et à mesure aussi en fonction des besoins.
C'est clair que si on prend alors, les données les plus disponibles, le régime alimentaire peut expliquer que certains pays européens ont des citoyens qui sont plus grands que d'autres. Les régimes à base de calcium, de lait, de laitage. Favorise sans doute plus la croissance que des régimes à base d'huile ou de produits différents. Et il y a absolument une corrélation entre, alors dans une certaine marge, on ne va pas grandir indéfiniment en fonction du régime alimentaire moyen d'une population.
Je pense qu'il y a des histoires de pêche aussi là, dans tout ça, surtout à une époque où la science n'existe à peu près pas. Revenir à la maison puis dire j'ai battu quelqu'un de 5 pieds 2, c'est moins intéressant comme histoire que s'il faisait 11 pieds de haut. Moi, j'aurais probablement tendance à exagérer un peu, moi aussi, rajouter quelques centimètres.
Well, I was going to throw up the example that I experienced personally. I was volunteering on an archaeology dig in Mongolia. And to get there, I had to fly through Beijing in China. And I remember spending the afternoon in Beijing and just noticing the people cleaning up the streets and walking around. And then I flew from there to Ulaanbaatar in Mongolia. And I got off the plane and I was absolutely stunned that everybody there seems so much bigger. And because it's dairy and it's meat-eating cultures. So even even in that small sort of difference, I could try to then imagine what it was like back in Europe when the Mongols were, the Golden Horde was coming through. They must have been pretty intimidating.
Et tout à l'heure, on parlait justement aussi du cyclope et de l'origine du cyclope et de l'origine de ces mythes-là. Et puisque j'ai un archéologue et un scientifique aussi à ma table, j'ai appris tout à l'heure quelque chose de la possible idée de l'origine du cyclope. Je vous laisse la dire.
Alors, vous savez sans doute que les îles méditerranéennes sont assez anciennes dans l'histoire. Elles étaient déjà isolées des continents à l'ère tertiaire. Et elles avaient acquis à l'époque, avant de se séparer des continents, des animaux qui sont des éléphants, qui étaient des éléphants, qui étaient des hippopotames. Et sur de petites surfaces, ces animaux sont devenus plus petits. On a eu des éléphants nains, on a eu des hippopotames nains sur presque toutes ces îles, depuis Chypre jusqu'aux Baléares et jusqu'à Sardaigne et Corse. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un crâne d'éléphant. Alors, c'est assez encombrant, mais il y a un endroit au muséum à Paris, il y a un bâtiment, une pièce où on range les crânes d'éléphant. Et il faut un grand placard quand même pour mettre un crâne d'éléphant. Et vous voyez cette trompe. Et la trompe, elle part du crâne et ça se branche sur un espace creux. Et quand on n'est pas forcément anatomiste, on dirait l'orbite d'un œil central. Et donc, quand les anciens, les Grecs et avant les Grecs ont visité ces îles, donc dans la haute antiquité, ils sont tombés sur des squelettes de ces animaux qui étaient morts sans doute avant l'arrivée des humains pour différentes raisons. Et ils ont trouvé des crânes qui pouvaient ressembler à un crâne humain, mais on ne voyait pas les orbites naturelles et on voyait ce grand trou frontal. Et on peut imaginer que la légende du cyclope soit fondée sur ces crânes qui sont plus gros qu'un crâne humain, même si c'est un petit éléphant, ça fait grand pour un humain, et avec ces trous centrales. Et on peut penser que la légende du cyclope s'appuie sur ces crânes d'éléphants nains des îles de Méditerranée.
Il y a aussi beaucoup de mauvaises linguistiques de Grecs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. En anglais, on dit Herodotus, ça doit être Hérodote en français. C'est lui qui nous parle, tout ce qu'on sait des Amazones vient de lui. Alors, on imagine quelqu'un qui revient du nord, et là, on parle des Scythians en anglais, qui sont des tribus nomades où il y a, à l'occasion, des femmes, peut-être qu'il y en avait une avec beaucoup de femmes, et qui voyage à cheval. Il revient, puis il dit, j'ai rencontré des femmes à cheval, et elles s'appellent les Amazones. Alors, il y a plusieurs façons de faire l'étymologie d'Amazon. Les plus plausibles, à mon avis, sont soit, je voudrais simplement dire, toutes des femmes. On peut aussi compliquer ça un peu, puis en faire un mot qui voudrait dire guerrier. Mais Hérodote, lui, voit du grec partout. Ah, il voit les racines pour un seul sein. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des femmes qui se font amputer un sein parce que, contrairement à toutes les femmes qui ont tiré de l'arc dans l'histoire de l'humanité, celles-là ne sont pas capables d'avoir un arc dans les mains sans se faire mal. Toujours dans le même coin, il y a une autre tribu dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'est Arimaspi. Puis selon toute vraisemblance, en ancien iranien, le nom voudrait dire quelque chose comme amour des chevaux. Bref, c'est des gens qui se promènent à cheval. Mais Hérodote encore se trompe de racines et voit les racines pour un et œil. Et tout d'un coup, dans ces récits, on a des gens qui se promènent avec un seul œil, qui se promènent dans le nord. Des mauvais linguistes.
The other example regarding dwarfism. On the islands, there could be another origin. Imagine you're in a small boat and you're a quarter mile or a mile offshore and you're seeing elephants on the shore. And of course, you think in terms of elephants being, 16 feet at the top of the head. And then some man walks down and he's like twice the size of the elephant. Well, then you think, okay, giant, right? So it could just be a scale thing at the same time. No, actually, I believe it's the skull. Hole in the skull.
C'est sûr qu'on est grand par rapport à quelqu'un qui est plus petit. Il y a aussi une grande notion de relativité dans la taille. On est géant par rapport à quelqu'un de plus petit et réciproquement. Alors, sur les îles, les éléphants étaient nains et les souris étaient géantes, par exemple, sur ces îles de Méditerranée. C'est assez intéressant au point de vue zoologique. On appelle ça le syndrome de l'insularité.
Oui, donc le géant est toujours un géant par rapport à un autre. C'est surtout ça qui fait cette différence. Je rappelle donc Goliath, qui était considéré comme un géant. S'il faisait, si à l'époque on faisait juste 1m40 et que lui il faisait juste 1m85 ou 86, qui est tout, c'est pas classique tous les jours, mais enfin on en croise, tout de suite il pourrait avoir l'air d'un géant. Cette différence de taille, dans vos univers respectifs, quand vous avez écrit des romans, vous en êtes servi pour impressionner, pour donner une puissance. Est-ce qu'aujourd'hui encore la taille compte? Je ne parlerai que de littérature.
Je veux bien parler. Moi, je suis pas du tout compétent en science-fiction. Moi, je vous parlais en science, pas fiction. Même s'il y a plein de questions et beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Si je reprends nos mammifères, à la fin des glaciations, sur notre petite planète, il y avait un ensemble d'animaux qu'on appelle globalement la mégafaune. Et nos éléphants, nos rhinocéros, nos hippopotames sont les derniers représentants à cette échelle. Des animaux qui font plus d'une tonne, mammifères, ce n'était pas fréquent. C'est assez encombrant, on est d'accord. Il leur faut pas mal de nourriture pour qu'ils puissent survivre. Et au fur et à mesure que les glaciations se régressent, que l'humain, l'Homo sapiens, réavance dans des territoires qu'il avait dû quitter à cause des conditions trop difficiles, cette mégafaune disparaît. Et donc notre petit humain, qui est un peu un nain par rapport à ses grands, quand il arrive, les grands disparaissent. Et il y a une grande discussion actuelle parmi les paléontologistes pour savoir si c'est juste une coïncidence. Ben, ce n'est pas de chance. Au moment où on arrive, les grands s'en vont. Ou bien est-ce que c'est nous, avec nos petits outils, notre petite lance et notre petit cerveau, ou notre gros cerveau par rapport à notre corps, en fait, qui explique la disparition de ces grandes espèces. Et malheureusement, le processus continue. Et quelque part, il y a aussi le mythe de la personne qui est plus fière d'avoir cassé la figure à quelqu'un de plus grand que lui que plus petit que lui. Au début, on avait des lances, on avait des sagaies, on avait des propulseurs, des instruments assez primitifs. Et tuer un mammouth avec ça, ce n'était pas évident. Et il y en a qui ont réussi. Maintenant, on a à peu près la même façon de faire, sauf qu'on a des Kalachnikov. Et c'est sans doute moins glorieux. Mais les grandes espèces, pour plein de raisons, et pas que des raisons évolutives, sont en train de disparaître et nous sommes en train de créer le mythe des géants parce que bientôt, ils ne resteront plus que dans nos souvenirs. Et dans deux générations, peut-être certains ne pourront plus les voir en vrai.
Oui, il y a aussi une façon de craindre ce qui est plus grand que nous et donc de vouloir le détruire. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de voir le mythe, de le rendre? Parce qu'en général, dans la plupart de la mythologie, le géant n'est quand même pas un bon géant. Comme on n'est pas dans le mythe du bon géant dans la plupart de la littérature. On est quand même plutôt dans... Enfin, Goliath, c'était quand même pas un gars sympa. Le Cyclope, non plus. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de le rendre mauvais pour dire que... De pouvoir l'exterminer ensuite?
Mes robots géants, ils ont des pilotes. Hein? Et comme la NRA dit aux États-Unis, les robots géants ne tuent pas, ce sont les pilotes qui tuent. Et il y en a des plus gentils que d'autres. Mais oui, il y a une tendance à voir tout ce qui est grand de façon menaçante. Ce qui m'intéressait un peu, et je reviens toujours à Goldorak, c'était d'en avoir un qui était gentil et qui était de notre côté. Qui pouvait nous défendre justement contre les méchants géants qui allaient venir nous voir. Et ce gentil géant qui reste toujours quand même un peu mystérieux, je trouvais ça intéressant comme personnage à explorer.
Alors même s'ils sont gentils, à la base, l'origine de ces géants, on ne va pas trop en parler, mais elle n'est pas forcément, enfin ça reste une arme. Comme ce sont des armes donc dans votre univers, même si le géant n'est qu'une arme, ça reste une arme et une arme en général, c'est rarement fait pour le bien.
En général, le robot géant comme invention est à peu près la chose la plus inutile au monde. Ça peut pas aller nulle part, ça tomberait n'importe où, ça prend un sol solide pour soutenir des choses qui, c'est à peu près la chose la moins pratique qu'on peut inventer. La seule utilité réelle qu'on pourrait y voir, ce serait d'impressionner quelqu'un pour justement ne pas avoir à s'en servir parce que ça ne fonctionne pas, un robot géant.
Et c'est pareil dans la fantasy, en général, les mythes géants, les mythes des géants, enfin, ces créatures-là sont rarement du bon côté, enfin, du bon côté quand même. Ce sont des démons, ce sont des créatures extraordinaires qui sont comme assez peu du côté des humains. Steven?
Well, yeah, if you want to pick sides, but I have no, I mean, the Malazan novels that I'm writing in, the giants are as varied as human cultures. So I don't really see any kind of automatic adversary kind of relationship with humans. They're simply a different species. But I think, you know, if you go back to some readings of Gilgamesh, for example, Enkidu is often viewed as sort of the giant beast-like corollary to Gilgamesh. And there may be some kind of chthonic thing going on there between the wildness of the forest dwellers or whatever as giants as opposed to the ones who started growing crops and all the rest, because your diet changes very quickly. And so I think, and I, at the same time, as an archaeologist, there are sites that have been excavated where we're looking at some fairly large individuals. And so I guess it all comes down to sort of what kind of range you want to accept in terms of human variability. But that idea of the megafauna, I just want to get back to that, because the argument in North America, of course, is this, well, there's multiple arguments, but it's basically that the Clovis hunters, with their techniques, came in and took out most of the megafauna. It doesn't stand as an argument if you then look at Northern Europe or Asia, for example, because the mammoths coexisted with humans or hominids anyways for quite a long time. So there's probably climate change is probably more responsible for the megafauna die-off than anything else. But in terms of fantasy, I don't know why I created giants. It was just fun to do. They just seemed like something that would be interesting to interact with in terms of individuals and all the rest. Because if you think in terms of hunter-gatherers, they aren't afraid of megafauna. They often target megafauna. And even to this day, that idea of the large animal is not quite as, I think, intimidating as we think of it now. I think it was a very different relationship back then. So I don't know, yeah.
Et donc aussi, pareil, dans la science-fiction, j'en pensais à ça, les extraterrestres ont rarement la même taille que nous. C'est-à-dire qu'en fonction de la vision dont on a, ce sont de petits hommes verts. Donc dans ce cas, c'est nous, les géants, par rapport à eux. Ou ce sont en effet des créatures plus grandes. Dans beaucoup de films de science-fiction, les extraterrestres font 2m20, 2m30, tout maigres, avec trois doigts. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez aussi que ce rapport à la taille, finalement, est plus quelque chose en nous, finalement? Est-ce que ça démontre quelque chose chez l'humain sur son rapport à la taille par rapport à son environnement?
Moi, je vais commencer par être en désaccord. Dans la plupart des, du moins à la télé, au cinéma, on s'en permet un peu plus, mais de manière générale, si des extraterrestres vont avoir un rôle important à jouer dans une série de fiction ou un film de fiction, on va vouloir qu'ils puissent être joués par des humains. Or, on va les faire, on va leur donner à peu près la même forme que nous, avec à peu près la même taille que nous, parce qu'il va nous falloir un Britannique qui fait du Shakespeare le reste de la semaine pour jouer le rôle dans le film. En fait, je pense que au contraire, on impose des contraintes de forme et de taille à nos extraterrestres qui ne devraient pas y avoir. Ce qui est intéressant, par exemple, dans quelque chose comme Arrival, parce que là, on y va avec créativité.
Steven, dans votre livre de science-fiction qui n'est pas encore sorti, les extraterrestres, ils ont la même taille que nous, ils sont humanoïdes, comment sont-ils?
In mine? Yeah. You never meet them. No, I mean, the other thing is when you see the sort of the giant insectoid aliens or whatever, for me, my thoughts immediately go back to, well, wait a minute, they must be from a planet with low gravity and oxygen rich, because otherwise exoskeletal, they couldn't support this. So they would step off their spaceship and be crushed if they were here on Earth. So the big ones wouldn't scare me nearly as much as the smaller ones. in terms of aliens. But no, I don't introduce any aliens, apart from the Greys, but they're not part of the storyline.
C'est sûr qu'il y a des contraintes liées à la gravité sur la planète Terre. Moi, je ne connais pas les autres planètes. Je n'ai jamais habité sur d'autres planètes que sur la Terre. Et donc, on est certainement lié à la gravitation qui, est peut-être, qui a changé certainement au cours du temps, mais sans doute moins que le taux d'oxygène qui a une certaine valeur actuellement, qui a été plus élevé un temps, alors qu'il n'avait pas du tout au tout début. Et par exemple, si on prend un groupe d'animaux dont on n'a pas encore parlé, qui sont les insectes, on a eu des libellules qui faisaient un mètre d'envergure il y a bien, bien longtemps, à une époque où il y avait un beaucoup plus fort taux d'oxygène sur Terre, parce que le système respiratoire des insectes n'est pas du tout fondé sur le mécanisme des vertébrés qui inspirent mécaniquement à travers un arbre respiratoire et des poumons et des muscles qui vont aspirer l'air, mais sur des ouvertures sur tout le corps par lesquelles l'air va circuler de façon mécanique. Et avec le taux d'oxygène actuel dans l'air, un insecte d'un mètre, enfin une libellule qui aurait un mètre d'envergure, n'aurait pas la capacité d'oxygéner l'ensemble de son organisme, elle n'est pas viable. Et donc la taille des insectes, aujourd'hui, est plus petite qu'elle n'a été parce que le taux d'oxygène a diminué. Et donc, si on parle de géants en science-fiction, on a le droit d'inventer tout ce qu'on veut, mais si on prend les contraintes de la Terre, et si on veut comprendre pourquoi on n'a pas un animal deux fois plus gros qu'un éléphant ou deux fois plus gros qu'une baleine bleue, il faut prendre des considérations, gravité, taux d'oxygène. Également, les muscles de nos squelettes sont faits pour être d'une certaine structure, avec une certaine souplesse, et une masse qui n'est pas infinie. Et pour porter un éléphant de 10 tonnes, on serait à la limite de la rupture. Soit on a des poteaux où l'animal ne se casse pas les pattes, mais ne marche pas. Et c'est un handicap quand même quand on est un éléphant, sans doute. Soit l'animal marche, mais les pattes sont tellement fragiles que dès qu'il se prend les pieds sur un tapis, il n'y a pas beaucoup de tapis dans la savane, mais ça peut arriver, il se casse la figure, il casse ses os, il n'est pas viable. Et donc on a des contraintes biomécaniques qui explique en partie la taille des animaux qu'on a actuellement sur Terre avec nous.
Donc techniquement, le mythe du géant reste, enfin un mythe, on va dire biologiquement. La taille d'un être humain maximum, ça peut être, selon ses contraintes, 2 mètres 30, 2 mètres 40.
Oui, c'est ça, au-delà de 2 mètres 40, 2 mètres 50, on a vraiment des problèmes de fragilité osseuse. Alors, ce sont parfois des situations pathologiques, ce sont pas toujours. Il y a quelques personnes très grandes qui sont harmonieuses, qui ont simplement eu plus d'hormones de croissance que d'autres, mais il y a des personnes qui ont des problèmes de thyroïde avec une sécrétion de l'hormone de croissance qui n'est plus contrôlée. Et là, c'est vraiment quelque chose de pathologique et ce sont des personnes qui peuvent ne plus pouvoir se déplacer ou à qui il faut apporter vraiment un soutien extrêmement particulier. Et c'est vraiment quelque chose qui est anormal, qui n'est pas dans la norme.
Yeah, the giants in the Malazan series have two hearts for that reason. Yeah, yeah. Because it's just, I mean, it would be so challenging for a single heart to actually maintain, I think, that kind of mass upright in a biped, I think. So I put two hearts in.
Et si on prend l'exemple de la girafe, tout à fait différente, mais c'est le plus grand animal actuellement sur Terre. Elle a deux problèmes quand le cœur est à peu près à mi-hauteur dans le corps par rapport au cerveau et il faut irriguer le cerveau. Donc il y a un mécanisme qui permet au sang de monter avec un système qui empêche que le sang retombe avant d'arriver vers les zones cérébrales. Et inversement, quand elle baisse la tête pour aller boire, elle doit baisser la tête pour boire, il y a un système qui empêche qu'une masse de sang lui arrive dans le cerveau d'un seul coup et qui lui fasse un choc comme les aviateurs qui font des décélérations très violentes. Et là, elle s'évanouirait. Donc, elle a un double système qui lui permet d'oxygéner son cerveau avec le sang quand elle est debout et de ne pas être étourdie par la masse du sang quand elle baisse la tête. Donc, c'est vraiment des contraintes qui ont des solutions. Mais au-delà de cette taille-là, ça serait sans doute assez compliqué.
Je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
Ah, j'ai eu chaud.
Mais c'est vrai que c'est... alors, moi, j'ai eu l'occasion, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les sentiments là-dessus. Il y a un parc d'attractions au nord de Paris, un peu plus au nord de Paris, qui exploite, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre terme, en fait, qui embauche des humains géants, donc qui font de tout pays, et qui sont entre 1m98 et 2m20, 2m30. C'est l'attraction du parc. Enfin, c'est un peu... un peu étrange, voilà. Il y a un côté comme ça, justement, les foires de l'Antiquité, enfin du 19e siècle, où on avait ces foires-là. Mais justement, ces personnes hors normes peuvent-elles être aussi à l'origine de ces mythes-là, de ces géants mythologiques? Est-ce qu'à un moment donné, il est possible qu'il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, quelqu'un de 2,40 m naisse et donne naissance à un mythe?
Sûrement. Mais ça peut marcher dans les deux sens. Enfin, je prends un exemple, c'est pas forcément un exemple lié aux géants, mais comment est-ce qu'on imagine quelque chose? Parfois, notre cerveau est vraiment assez riche, on peut imaginer quelque chose, mais vraiment de façon abstraite, et un jour rencontrer quelqu'un qui dit, ben voilà, ça c'est une image de ce que j'ai imaginé. Donc, on peut avoir quelqu'un qui visualise le mythe que j'ai imaginé. Je vais prendre un exemple en géométrie. Le cercle parfait. On n'en voit jamais des cercles parfaits. Mais on peut très bien imaginer que quelqu'un imagine au bord d'une île, il y a quelques millénaires, le cercle parfait. Et un jour, c'est assez fréquent, c'est tous les mois, c'est possible, voit la pleine lune et disent, voilà, la pleine lune, c'est l'image du cercle parfait que j'ai imaginé. Ce n'est pas parfait comme cercle, il y a des imperfections, mais c'est une bonne représentation du cercle parfait que j'ai en tête, qui est l'ensemble des points qui est à une distance fixe d'un point central. Donc l'image peut être d'abord abstraite et on peut la reporter sur quelqu'un qu'on a croisé qui est une représentation vivante du mythe, mais le mythe, il est intellectuel abstrait.
Moi, si je devais avoir cette contrainte-là puis l'écrire, là, si j'étais obligé de baser un mythe du géant sur une personne très grande, j'essaierais de trouver quelqu'un de grand, mais dont la physionomie rappelle celle d'un enfant, pour qu'on puisse s'imaginer qu'il va grandir encore.
Oui, c'est vrai que du coup, même les géants mythologiques doivent passer par un stade de l'enfance. Ça me rappelle juste un vieux film des années 90 où un bébé grandit de manière gigantesque. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais. C'est un scientifique qui s'amusait à rétrécir ses enfants et dans le deuxième, il agrandit
oui.
Son bébé. Et du coup, on se retrouve avec cette scène extraordinaire d'un enfant de 5 ans traversant Las Vegas, faisant, je crois, dans les 20 ou 30 mètres de long, de haut. C'était assez impressionnant aussi. C'était aussi une autre vision du mythe du géant. Mais alors, du coup, pourquoi, dans vos livres, vous avez utilisé, à part Turgot, c'était vraiment le but du Goldorak, du grand robot, c'était juste, il y avait quand même quelque chose de peut-être plus fouillé derrière vous sur cette recherche-là. Parce que ce géant, en plus, ces géants, on ne les découvre pas en une seule pièce, on les découvre en plusieurs parties.
Oui, j'en ai fait une chasse au trésor dans le premier tome. Mais ce n'était pas vraiment beaucoup plus songé que ça au départ. Ce livre-là est né du besoin de... Ben, j'ai offert à mon fils de lui construire un robot jouet, puis il s'est mis à poser trop de questions. Pourquoi? Quelle sorte de robot? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il y a des missiles? Puis j'ai arrêté. J'ai abandonné l'idée au début parce que il voulait une histoire pour aller avec le jouet, puis j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Puis en écoutant Goldorak, je me suis mis à réfléchir, puis je me disais, ben, qu'est-ce qui arriverait si on trouvait une machine gigantesque comme ça, laissée par une civilisation inconnue sur Terre? Puis ma première réaction, ça a été, ben, on le saurait pas. L'information serait compartimentalisée, cachée. Il y aurait quelques personnes qui seraient au courant. Et la seule façon dont on aurait pu pas s'en rendre compte, parce que c'est gros, ça aurait été de trouver en pièces détachées.
Oui, parce que du coup, on revenait tout à l'heure sur le géant comme arme. Moi, je suis étonné que personne n'ait pensé à modifier l'être humain avec les techniques génétiques aujourd'hui. Pour en faire des soldats de 2,20 m, 2,30 m, ce qui impressionnerait, j'imagine, sur une armée composée entièrement de géants de ne serait-ce que 2,20 m, 2,30 m, hein, pas besoin de monter à 3 mètres. Ah, Steven, non, tu penses non.
No, it wouldn't be. You'd want to be smaller, right? I mean, sort of the classic infantry person is probably 5'3", 5'4", because you're less likely to be hit by something. So smaller is better for armies. I just agree with you on that one.
Enfin, la guerre n'est pas un sujet très rigolo, hein, mais aujourd'hui, ça se passe plus avec des soldats, c'est plus des fantassins, ça se passe autrement. À mon avis, malheureusement, on est capable de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de personnes. Enfin bon. Il y a aussi un mythe qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais qui serait intéressant, c'est le mythe qu'on connaît ici sous le nom de Yeti, dans l'Himalaya, qui s'appelle Almaty, je crois, dans le Caucase, qui s'appelle le Bigfoot en Amérique du Nord, et Sasquatch, voilà. Et donc, il y a pas mal de régions du monde, avec des zones parfois froides, parfois des montagnes un petit peu difficiles d'accès, dans lesquelles, régulièrement, localement, on parle de quelqu'un, de quelque chose, qui a quelque chose d'humain, mais qu'on ne connaît pas bien, avec toute une mythologie associée. Alors, je sais simplement que du côté du Yeti, on a ramassé plusieurs fois des poils en disant « j'ai trouvé des poils de Yeti ». Donc, voilà, on a des poils de Yeti qui ont été analysés. C'était soit des poils de vache, soit des poils de yak, on peut faire la génétique, soit des poils d'ours. Bon. À Banff, au Canada, dans le parc national, vous avez un musée du Sasquatch. Alors, on voit voilà, une reconstitution du Sasquatch. Il y a une photo, un petit film très connu qui date des années 50 ou 60, de quelque chose qui marche dans la forêt du Nord. Là. Et alors, quelque part, on a l'impression qu'on a besoin de ce mythe. Et le pire, c'est que peut-être qu'on serait un peu dépouillé si le géant disparaissait. On n'a pas besoin de savoir vraiment qui c'est, mais savoir qu'il y a un truc un peu bizarre, qui habite pas très loin, il est gentil, il n'est pas gentil, on ne sait pas trop, mais quelque part, on en a besoin. Donc, ça serait dramatique s'il disparaissait vraiment, ces Yeti ou ces Sasquatch. On serait triste, je crois, non?
Yeah, the, the, well, the West Coast native groups of Canada all have the myth. You can find totems, totem poles, which have the Sasquatch, actually, as part of it. And that myth is actually ubiquitous, as far as I know, across most of the native groups across Canada. Plains Cree, Swampy Cree, they all have Bigfoot or Sasquatch mythology. I don't know, I mean, and then, of course, you got the cryptozoologists who are talking about Gigantopithecus as a holdover hominid that has actually still survived. So the hair, yeah, I've read all about that, but the footprints, there's some pretty interesting footprints out there. So who knows, right? It just seems like that need for mystery it's necessary for our cultural identity, I think. We need the other somewhere out there.
Ben, je pense que c'est vrai qu'il faut garder un peu de magie, là, surtout quand on a tendance à croire que la science peut tout expliquer. Il faut quand même se garder un petit peu de magique et d'extraordinaire et continuer à rêver.
Oui, dans la fantaisie, c'est le but, c'est de se passer justement de toutes les théories scientifiques dont on vient de parler. Après tout, comme dirait l'autre, c'est tais-toi, c'est magique. Donc c'est le meilleur argument à un moment donné quand on est sur de la fantaisie. De ne pas avoir à s'occuper de ces contraintes physiques et physiologiques. Et c'est là que les mythes peuvent rejoindre aussi la magie. Steven, sur la magie, justement, tes géants, je reviens dessus, en effet, tu les as fait magiques, mais tu leur as quand même donné de cœur pour des raisons scientifiques.
Non, je n'ai pas les magiques, en fait. Ils ne sont pas différents de n'importe quel autre hominid. Species out there on the Malazan world. But there's a role, I mean, if you go back to folklore and you go back to mythology and legends, magic is the stand-in for a sense of wonder. And so you don't want to explain it. It's where the mystery lies. I know I've read a lot of fantasy, and I know a lot of fantasy authors who basically map out their magical system in great detail. But basically all they're doing at that point is turning that magic into a technology. And then using it in the fiction, so I certainly hold to the view that the magic, in terms of a literary sense, is representing wonder, and so you don't want to mess with it. You don't want to explain too much of it. You want to keep that mystery alive. But the giants are just another species on the planet in the Malazan world.
Il reste plus que 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah oui.
Bonsoir. Moi, je pensais à un exemple qui est l'exemple de Gulliver, où on a un personnage finalement qui passe lui-même de l'état de géant à l'état de Lilliputien, enfin, respectivement quand il est d'abord au pays des Lilliputiens, puis il passe au pays des géants. Et puis finalement, surtout, enfin, je me souviens surtout de la partie avec les Lilliputiens où il est traité, au début, il est traité comme un ennemi. C'est quoi cette énorme personnage qui est là dans notre village, donc on va l'attacher, on va voir, bon ça marche pas, et puis finalement après il passe du côté des géants et là aussi il y a de l'incompréhension mutuelle. Alors lui il est tout petit, qu'est-ce qu'il peut bien faire, et lui il est tout petit, il regarde les géants et il se dit mais ceux-là sont des monstres, ils pourraient m'écraser à n'importe quel moment.
La question est un peu
ben, c'est que finalement le géant bon ou mauvais, ça reste aussi beaucoup une question de point de vue. C'est que lui, en étant un géant, bah, les petits Lilliputiens ont peur de lui, ils se disent ah, c'est quelqu'un qui est mauvais. Et lui, après, quand il arrive au pays des géants, bah, du coup, tous ces géants sont les mauvais pour lui, finalement. Donc, le côté, le géant est un ennemi, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup, mais après, est-ce que c'est pas aussi beaucoup une question de point de vue ?
Sensiblement, tout ce qui est différent va en général générer la même réaction, là, que ce soit, on n'a pas besoin d'aller vers le géant, ça peut être juste la couleur de peau, là. Va générer chez des gens qui ne connaissent pas des réactions de crainte, de haine. Alors, c'est évident que quelqu'un qui mesurerait 3 mètres de haut aurait à faire face à certains préjugés.
Après, Voltaire l'utilise, je rebondis sur les classiques, dans Micromégas, il utilise un géant pour aussi justement accentuer la différence de point de vue, la différence pour pouvoir critiquer la société dans laquelle il vit, sans dire non, mais c'est pas moi qui critique, c'est un géant extraterrestre. Comme quoi, la science-fiction ne date pas d'hier, Voltaire. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est ça aussi. Est-ce qu'on n'utilise pas le géant juste pour exprimer la différence de point de vue ? Oui.
Yeah, I would say. But then think in terms of sort of modern pop interpretations of these things. You've got Ant-Man, which of course is a person who then shrinks himself down to very small size. And then and yet we're holding to that point of view. And so it flips our point of view, our perspectives suddenly change with everything around them. And then you've got, I don't even know if it made it here. There was a series in the 60s by Irwin Allen, I think it was, Land of the Giants. Basically the same kind of story. I don't know what I'm answering anymore, actually. So let's move on to the next question.
Donc, question suivante. Il nous reste... Ah, oui. Là-bas. Qui a le micro ?
Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. On se demandait juste, vous parlez beaucoup des géants, mais qu'en est-il des géantes ? Merci.
Bonne question.
L'héroïne de mon premier roman est une géante. On le découvre après avoir trouvé quelques morceaux.
Il est vrai que dans les classiques, on n'en parle pas beaucoup. Mais enfin, dans tous les classiques, les femmes ne sont pas très présentes, malheureusement.
Maintenant, rien n'empêche qu'il y ait des yétis mâles et des yétis femelles, hein, et qu'ils fassent des bébés yétis.
Ils font.
On ne sait jamais, sans doute d'ailleurs qu'ils en font, mais on n'a pas encore la preuve formelle. Mais certains cherchent, croyez-moi.
Pour le yéti, moi je pense qu'on parle de quelqu'un qui ne s'est pas rasé depuis des mois. Alors, il n'y a probablement pas de yétis femmes, mais bon.
La question, c'est est-ce que la Yeti doit malheureusement aussi subir l'épilation ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y avait une autre question ici, devant.
Oui, bonjour. C'était plus un flot de pensée qu'une question. Quand vous avez parlé des Yeti, ça me faisait penser à deux choses. Peut-être à une réminiscence d'une altérité perdue, parce que ça fait, à l'échelle de l'humanité, ça fait peut-être que 30 000 ans qu'on est la seule espèce dominidée, parce qu'on avait nos Néandertaliens, Denisova ou Flores. Bon, Flores était petit, mais donc c'est peut-être ça, tout simplement, cette réminiscence d'une autre espèce d'homme, peut-être plus grande, ou je crois que Néandertal était plus grand que Cro-Magnon. Et la deuxième chose à laquelle ça me faisait penser, c'est également cette généalogie fantasmée qu'on retrouve dans la culture païenne de l'Europe, qui était l'ours, surtout dans les dynasties scandinaves, etc. Certains rois ou certains se revendiquaient d'ancêtres qui étaient des ours, qu'on retrouve dans les noms, hein, Björn, Bjorn, etc. Donc là aussi une sorte d'altérité qui ressemble à un homme, qui pourrait être un homme de la forêt, mais qui est l'ours, et qui pourrait peut-être être également lié à ce mythe ou à cette pensée du géant.
Mais c'était quelque chose auquel j'avais pensé tout à l'heure, mais c'est vrai que Homo sapiens actuellement est la seule espèce d'homo sur Terre, si on admet que les chimpanzés ne sont pas dans le genre homo qui est discuté par certains. Mais en fait, avant Homo sapiens, il y a régulièrement eu plusieurs espèces du genre homo qui se sont partagées la planète. Et quand sapiens arrive, curieusement, les autres disparaissent. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'on n'est pas trop partageur? C'est une autre histoire, mais c'est vrai qu'il y a eu un fameux Gigantopithecus. Ça remonte à un certain temps, mais c'était un animal encore plus grand que les gorilles, certainement frugivore d'ailleurs, ou herbivore, en tout cas végétarien, pas du tout chasseur ni carnivore, et qui était sans doute très impressionnant d'après les squelettes, si on imagine l'animal autour, ça va être très impressionnant. Est-ce qu'il y a un souvenir de tout ça? C'est pas forcément impossible. Et quant à l'ours, c'est pas par hasard si le Yeti, l'Almaty, le Sasquatch, c'est dans des pays où il y a des ours encore aujourd'hui. Et l'ours, l'autre de l'homme, c'est quelque chose de très classique dans la culture encore européenne. Dans les Pyrénées, il y a encore, malgré tout ce qui se raconte, des fêtes de l'ours. Et c'est vraiment Jean de l'ours, la légende de l'homme, de l'ours et d'une femme qui s'accouple avec un enfant qui naît. Il y a vraiment une histoire commune entre ces deux espèces. Et peut-être que l'Yeti, c'est une façon, enfin le nom qu'on lui donne localement, une façon de perpétuer cette tradition. Mais ça serait aussi bien de la conserver avec le vrai ours que simplement son mythe, on est d'accord aussi. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas.
Well, I mean, one of the things I remember as an archaeologist is that if you stumble on parts of a bear skeleton, they are very hard to distinguish from human, especially the femur. You almost need a specialist to actually step in there. So, in without the skull, there's a lot that's human in a bear in terms of the skeletons. So maybe, I don't know, stumbling across bones like that and then imagining something that is a cross between human and a bear, right? You get sort of the rotted fur lying around, and then you get the bones, and you think, oh, well, this is no different from the bones of my grandfather that, you know, I left up in the tree or whatever. So there may be that kind of crossover as well, sort of a cultural explanation for what's being found. But anatomically, it's surprising how close they are.
Et d'ailleurs, il y avait un ours des cavernes. C'est une espèce qui n'existe plus dans le sud de l'Europe, qui n'est pas liée directement à l'ours brun.
Et le canal.
Il y a vraiment des grottes dans lesquelles on a des traces de présence humaine et de présence de l'ours. Alors peut-être pas en même temps. Pardon.
Pour la traductrice, tu as oublié de changer de canal sur.
Lost my translator.
On entend la traduction anglaise sur le canal français.
Ah, mais j'y suis pour rien. Moi, j'ai parlé en français. Hein. Et donc, simplement, donc, il y a l'ours des cavernes qui n'est pas l'ours brun. Et dans les mêmes grottes, on a des traces de présence ancienne humaine, de présence de l'ours. Et on c'est pas sûr que ce soit des endroits où les humains aient chassé les ours. Et ils ont peut-être pu cohabiter en se partageant l'espace, dans le temps, de certaines façons, avec certainement des relations extrêmement intriquées, qu'on n'imagine peut-être pas encore aujourd'hui, mais vraiment, cette cohabitation entre l'ours, enfin certains ours et certains humains, est très ancienne et très forte. A été très forte.
Si je peux me permettre d'ajouter, juste en 15 secondes, pour ce lien entre l'homme et l'ours, enfin pour la salle ou pour tout le monde, vous pouvez écouter des émissions sur France Culture qui avaient été faites avec Michel Pastoureau, qui a également écrit un livre dessus qui s'appelle L'ours.
Le roi déchu.
Le roi déchu, exactement. Et voilà, c'est passionnant. Cet homme est passionnant à écouter.
Mais il ne nous reste que 4 minutes. Donc, si quelqu'un a une dernière question. Donc, je vais laisser donc, le public.
Hold on. We got 4 minutes. I've got a bear story. Are you guys good for this? Bear story? All right, I was in, let me see, about 21. So I was in southeastern Whiteshell Park in Manitoba, in Canada. And I was with some friends at a cottage. And we'd been drinking some beer. And so I went outside to relieve myself. And being male, of course, you want to aim at something. And so I saw a bush and pulled my pants down, trousers, I guess, and got ready to have my pee when the bush stood up and punched me in the chest. I just about peed on a bear.
Eh ben, à Nantes, il y a moins de probabilité que ça arrive, d'après ce que j'ai compris.
Bravo, bravo. One hopes not.
Bon, donc nous allons laisser ces géants de la littérature et des sciences retourner à leurs activités. Et je les remercie beaucoup de leur présence. Merci.
Moi, je voulais vous remercier aussi parce que c'est ma première table ronde en Europe à vie. Et vous êtes donc mon premier public. C'est très apprécié.